Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur ? Connaissant leur perversité, Jésus dit : Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit : Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? Ils répondirent : De César. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
Toutes les scènes que nous rapporte l'Évangile dans ces dimanches que nous vivons actuellement se passent dans le Temple, quelques jours avant la Pâque, quelques jours avant la Passion de Jésus. Et dans le Temple où Jésus a donné plusieurs paraboles que nous avons lues ces derniers dimanches, paraboles sur le royaume des cieux, les pharisiens, les scribes et puis les autres aussi, peu à peu, viennent voir Jésus pour essayer de l'enfermer dans des contradictions, pour essayer de le piéger. Et là, c'est net, selon l'Évangile, « Maître, ils veulent prendre Jésus au piège en le faisant parler. » Le piège est assez fort. L'hypocrisie des pharisiens et des scribes est à la hauteur de l'enjeu. Je voudrais souligner, avant d'entrer un peu plus profondément dans la signification de ce que dit Jésus, ce rapport entre l'hypocrisie des pharisiens et des scribes dans leur haine de Jésus, dans leur haine de l'amour, et l'amour que Jésus leur porte. Quand Jésus répond, et même quand Jésus dit « hypocrite », Jésus le dit avec un amour infini. C'est-à-dire, on le verrait beaucoup dans l'Évangile de saint Jean, à mesure que la haine grandit dans le cœur des pharisiens et des scribes, ou des chefs du peuple, des responsables religieux, l'amour de Jésus est d'autant plus manifesté, parce qu'il y a un contraste absolu entre les deux. Je voudrais entendre, j'essaye de demander à l'Esprit-Saint de me faire entendre le ton de voix de Jésus quand il répond. Jésus, même quand il se met en colère, c'est une colère d'amour. Jésus aime parfaitement les pharisiens. J'ai souvent dit, il aime les pharisiens, même les pires, autant que moi. C'est-à-dire, il aime tout le monde, le pire des pécheurs, il a un amour infini. Et je pense que c'est important, quand on entre dans l'Évangile, d'entendre cet amour de Jésus qui ne se laisse pas piéger, qui est ferme dans ses réponses, qui est ferme avec la vérité, mais c'est une fermeté qui n'est pas dure, qui n'est pas raide, qui n'est pas rigide, jamais. Les pharisiens veulent enfermer Jésus dans un « oui ou non ». Est-il permis de payer, oui ou non ? Et ce oui ou non, c'est souvent quelque chose qui nous enferme parce qu'on voudrait une espèce de réponse par oui ou par non, par blanc ou noir. Non, les choses sont souvent nuancées. Et Jésus ne se laisse pas enfermer dans cette espèce d'alternative idiote. Il est au-dessus, il monte au-dessus. Il nous oblige à monter un cran largement au-dessus. Il ne se laisse pas enfermer. Alors la question sur l'impôt, elle est connue, mais je la rappelle quand même. Si on paye l'impôt à César, on se fait traiter de collabo avec l'ennemi, avec l'occupant. Et si on ne paye pas, eh bien, on est rebelle, et donc on sera dénoncé. Et en l'occurrence, la compromission des pharisiens est telle qu'ils avaient trouvé une espèce d'arrangement. Ils payaient l'impôt à César et puis ils se disaient, le jour où le Messie viendra, le Messie nous libérera de la tutelle des Romains. Et donc à ce moment-là, il ne paiera pas l'impôt et avec lui, nous ne paierons pas. Et donc c'est pour eux un piège qui va assez profondément. Si Jésus paye, il n'est pas le Messie, ce que cherchent à prouver les pharisiens, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait, la manière de se comporter, ça ne peut pas être le Messie. On a décidé que ce n'était pas lui. Et si au contraire il ne paye pas, eh bien, non seulement ils ne reconnaîtront pas le Messie, mais ils le dénonceront comme rebelle pour qu'il soit crucifié par les Romains. Parce que c'est comme ça qu'on traitait les rebelles à l'Empire. Autrement dit, l'hypocrisie des pharisiens est telle qu'ils ont pris leur décision avant même de commencer à discuter. C'est-à-dire, c'est ça l'orgueil. Je sais, moi. Je ne suis pas prêt à me laisser enseigner. Je n'ai aucune ouverture dans mon cœur. J'ai décidé, j'ai jugé, j'ai choisi. On est quelquefois comme ça, et je pense très souvent actuellement dans les histoires de l'Église qui nous bousculent parfois, dans l'histoire du pape François qui nous bouscule, dans les histoires de synodes qui font peur à certains. Le pape se trompe, ou le pape devrait, ou le pape ne devrait pas, ou l'Église aurait dû, ou l'Église n'aurait pas dû. Mais qui êtes-vous pour juger comme ça, nom de nom ? Qui êtes-vous pour décider à la place de l'Esprit-Saint ? Qui êtes-vous pour conduire l'Église à la place du pape ? Dites, je ne comprends pas. Dites, j'ai du mal. Dites, j'aimerais bien qu'on m'explique. Dites, je voudrais... Oui, bien sûr, et l'Esprit-Saint nous aidera à comprendre et à entrer dans une perspective nouvelle. Mais ne décidons pas à la place de l'Esprit-Saint. Ne cherchons pas à appliquer un orgueil qui fait qu'on a déjà tout décidé d'avance et qu'on n'a plus de place pour se laisser enseigner. Alors Jésus va piéger ceux qui cherchent à le piéger. Montrez-moi une pièce. Et les pharisiens, sans sourciller, sortent de leur poche une pièce à l'effigie de César. Tiens, tiens, c'était formellement interdit dans le temple, et même pour tout juif pieux, même en dehors du temple, de porter sur soi une pièce ou quoi que ce soit à l'effigie d'une idole, à l'effigie d'un dieu qui ne serait pas le dieu tout-puissant. Or, César, qui se fait vénérer comme un dieu, qui se fait adorer comme un dieu, est réellement un concurrent, si on ose dire, c'est un dieu qui se fait dieu à la place de Dieu. Et donc les pharisiens et les scribes sont pris en flagrant délit de porter sur eux, et en plus dans le temple, une pièce à l'effigie de César. Bon, Jésus ne s'attarde pas là-dessus, mais les pharisiens ont dû faire gloups. Jésus leur dit, de qui est-elle cette inscription et cette effigie ? De César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César. Vous avez ce que vous voulez. Mais la suite, on la connaît, et elle est très forte, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Elle est tout à fait inattendue. Vous, vous êtes à l'image de Dieu. Vous, vous êtes marqué par l'empreinte de Dieu. Eh bien, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est s'offrir à lui, c'est se consacrer à lui tout entier. C'est donner toute sa vie à Dieu, c'est se laisser emporter. C'est l'acte d'adoration. Moi, je suis la créature, Dieu est le créateur. Seigneur, je t'adore et je t'aime. Seigneur, tu es tout puissant et moi, je ne suis rien. Je ne suis ce que je suis que dans ton amour et dans ta liberté. Jésus, ce faisant, établit, et c'est là que je veux en venir, vraiment, établit définitivement le juste rapport entre la politique et le religieux, entre le statut de l'État et celui de l'œuvre de Dieu, celui de Dieu lui-même. L'empereur se faisait vénérer comme Dieu. Et donc, lui obéir, c'était lui rendre un culte. Tous les dictateurs, au fond, ont cherché à s'emparer de l'âme de leurs sujets. Pas seulement de leur argent, mais de l'âme. On pique les enfants, on vole les personnes parce qu'ils appartiennent aux dictateurs. Ils veulent pour eux l'être tout entier, l'homme dans sa totalité. Regardez les grands dictateurs récents, les Hitler, les Staline. Et c'est pour ça que la religion est toujours leur bête noire. Parce que la religion, justement, va mettre Dieu au-dessus de tout. Et au-dessus de l'empereur, bien sûr, au-dessus de tout dictateur. Aujourd'hui, la situation n'est pas tellement différente, au fond. Parce que le pouvoir ou l'argent, le pouvoir de l'argent, le pouvoir et l'argent, et tout ce qui s'ensuit, sont finalement des idoles portées par certains représentants qui voudraient bien voler l'homme tout entier, qui voudraient bien s'accaparer l'homme, l'homme dans sa profondeur, l'homme dans ses structures familiales ou autres. On veut que les lois et les valeurs de la République soient au-dessus de la religion, au-dessus de Dieu. Non, non et non. Dieu est plus grand que la politique. Dieu est plus grand que les affaires de l'État. Non pas que nous ne devions pas obéir à l'État. Bien sûr, et Jésus nous a toujours demandé d'obéir à la puissance politique, même quand il s'agit de domination étrangère. Jésus a toujours dit, et Pierre après lui, et puis les apôtres, et puis les papes, toujours dit, le pape récemment en Mongolie demandait aux Chinois, par exemple, d'être des bons citoyens. Et oui. Jésus a toujours demandé, l'Église catholique a toujours demandé aux chrétiens d'être soumis à la loi de l'État. Quand la loi de l'État n'est pas en contradiction avec la conscience. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, en même temps qu'on obéit à l'État, en même temps qu'on obéit pour nous à la République, il faut être prêt à donner sa vie en martyr. Parce que je veux maintenir à tout prix que Dieu est plus grand. Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes, demande Pierre après les premiers miracles au temple, après la résurrection. Vaut-il mieux obéir à l'homme ou à Dieu? Eh bien, pour nous, nous avons choisi, nous obéissons à Dieu. Et peu importe les conséquences, si nous devons en être châtiés, si nous devons être emprisonnés, ça va très loin, parce qu'aujourd'hui, l'Église commence à enseigner des choses qui sont contraires à certaines lois. Quand on s'occupe des jeunes, on enseigne aux jeunes, dans le domaine de la morale sexuelle, par exemple, ou dans des domaines variés, on enseigne aux jeunes des choses qui sont en limite et quelquefois en contradiction maintenant avec les lois de l'État. Ça devient extrêmement grave. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Est-ce que nous sommes prêts à témoigner jusqu'à la prison et peut-être jusqu'au martyr? Le cardinal Lustiger parlait souvent du martyr moderne, qui est un martyr pas toujours sanglant, mais un martyr à petit feu qui est quelquefois aussi fort et quelquefois pire. Mais les martyrs sont libres, parce que les martyrs sont libres de tout. Ils dominent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les martyrs sont imparables, parce qu'ils aiment ceux qui sont en train de les tuer. C'est pour ça que j'ai souligné ce que j'ai souligné au début. Et le héros meurt pour une idée, le héros meurt pour un idéal, le héros meurt pour quelque chose, une passion. Non, le martyr meurt en aimant celui qui est en train de le tuer. Ça change tout. Est-ce que je suis capable d'aimer les ministres qui pondent des lois qui sont contraires à la conscience chrétienne? Est-ce que je suis capable d'aimer les chefs d'État, de les aimer au point de vouloir pour eux le bien? Pas seulement, Seigneur, nous te prions pour les chefs d'État afin que leur cœur soit touché par la justice et le bien de tu parles. Ça ne veut rien dire, ça. Est-ce que je suis prêt à aimer ces personnes-là comme Dieu les aime? Il y a du boulot. Hein. Non, parce qu'il y a des gens qui sont faciles à aimer, il y a des gens qui sont coriaces, hein, objectivement. Eh bien, tant que je ne les aime pas, je ne rends pas à Dieu la gloire qui lui est due. Là, il faut que je m'arrête, mais c'est un choix, c'est une manière d'être de l'Église catholique qui va nous mettre en totale contradiction avec l'islam, par exemple, qui enseigne quelque chose qui n'est pas du tout la même chose. Pour l'islam, il n'y a pas de distance entre la politique et la religion. Je veux établir une politique qui est une politique religieuse. Au fond, quand on regarde l'histoire de l'Église, pendant très longtemps, les papes se sont conduits comme des empereurs. Et il y a des siècles où les papes étaient finalement des empereurs parmi les empereurs. Alors ils se faisaient la guerre, c'était une lutte d'influence, c'était une lutte de pouvoir. Et les choses étaient mélangées au point que, finalement, heureusement qu'il y avait quelques têtes de saints qui dépassaient de ce bourbier. Quand on visite Rome, c'est très, très frappant. On voit que peu à peu, avec le temps, les choses se sont distinguées et les choses se sont mises à leur place. La politique à sa place et le religieux à sa place. Le religieux toujours qui donne la lumière, qui donne la direction, qui donne la véritable signification de l'homme comme créature de Dieu, à l'image de Dieu, et qui gère les affaires temporelles parce que c'est son boulot, parce que c'est son devoir. Et aujourd'hui, on a des papes, on a une église qui n'a plus aucun pouvoir humain, qui n'a plus aucun pouvoir politique, mais qui garde une influence considérable. Pourquoi cherche-t-on à faire tant et tant pour faire taire l'église, pour faire taire le pape, pour faire taire les chrétiens? Parce qu'ils gênent. Est-ce que je suis un chrétien qui gêne la politique? Pas la gêner pour la gêner, pour le plaisir d'emmerder le monde. Gêner parce que je suis chrétien. Et parce que je suis chrétien dans la charité active que disait saint Paul tout à l'heure dans l'épître aux Thessaloniciens. Alors nous sommes aujourd'hui dans le dimanche de prière, dans le dimanche de la mission universelle de l'Église. Peut-être quelle est là la mission universelle de l'Église? Nous faire les témoins dans le monde de ce que c'est qu'un chrétien dans le monde, que c'est qu'un enfant de Dieu dans le monde. Un enfant qui est soumis aux lois de la terre, mais dans la perspective de Dieu. Cette perspective de Dieu, elle manque aux hommes d'État, elle manque à la politique. Et si nous ne sommes pas, nous, les chrétiens, comme des témoins de cette dimension humaine de la réalité de la terre, alors la politique se vautre dans l'argent, dans le pouvoir et tout ce qui s'ensuit. Demandons à la Vierge Marie, elle est reine de paix, elle est la reine des missions, la reine des apôtres, demandons-lui de nous apprendre à être des chrétiens humbles, totalement consacrés à Dieu, mais des chrétiens obéissants. Amen.